Quand ça compte, avec Éric Auziel.
Éric, tu as dit que, selon toi, l'Avalanche avait gagné cette transaction. J'ai l'impression que les Hurricanes de la Caroline se sont mis dans une position de négociation impossible.
Ben, ils sont désespérés, Greg. Depuis quelques années qu'ils font des transactions comme celle-ci et qu'ils n'arrivent pas, l'année passée, Gensel, qu'ils n'arrivent pas à garder le joueur pour qui ils ont transigé. On te rappelle, il y a quelques années, qu'ils ont pris un pari risqué, qui est encore risqué, qui n'est pas terminé, mais sur notre kéké national, Kotkaniemi. Ils ont donné beaucoup d'argent. Je pense qu'il y a 23 points cette année. Je suis pas prêt à lancer la serviette sur KK, mais ce que je dis, c'est qu'il n'a pas répondu aux attentes. Clairement, quand tu es troisième dans ton encas de ton groupe d'âge, tu dois être meilleur maintenant. Mais les Hurricanes, qui sont une bonne équipe, mais tu vois, là, ils se positionnent parce qu'ils se disent, nous, là, on est un petit peu loin des Caps, donc on risque, première ronde des séries, de jouer probablement peut-être contre les Devils. On veut être sûr de se rendre au moins au carré d'as. Et puis, peut-être même en finale, la Coupe Stanley. Parce que c'est un marché important pour eux. Ils doivent gagner. Tu comprends? C'est pas le marché de Toronto. C'est pas le marché de Vancouver. C'est pas un marché comme Edmonton où tes partisans sont acquis. C'est un marché où il y a beaucoup de compétition. Fait qu'ils ont été pour un très, très bon joueur. Puis, dans les faits, parce qu'on parlait de Crosby tantôt, ça, c'est hypothétique. Mais dans les faits, les gars, Rantanen, c'est un des bons joueurs de la Ligue nationale. Il y a les 4-5 meilleurs joueurs de la Ligue nationale. C'est un gars qui a permis à l'Avalanche de gagner la Coupe Stanley. Donc, c'est pas un échantillon petit. C'est un échantillon assez important pour dire « il est bon ». Mais les Caps avaient 55 points. Ils n'étaient pas tellement loin de Rantanen. Et malgré ça, eux pensaient qu'il n'y en avait pas assez. Maintenant, comme tu dis, c'est un pari risqué. Parce que là, il va falloir que tu lui offres un contrat. Puis l'Avalanche, là, leur premier choix, c'était pas d'aller chercher Crosby, c'était de garder Rantanen. Parce que c'était une formule qui avait donné des bons résultats avec McKinnon et avec Makar. Mais ils ne voulaient pas faire le même modèle financier que McDavid et Draisaitl ont obtenu. Deux joueurs payés avec un très, très, très gros salaire.
Mais non,
avec
parce
un
que...
gros pourcentage.
Non, mais t'as raison. Parce que ton gros duo, oui, c'est un duo iconique de cette dernière génération. Là. Dans les cinq dernières années... Dans les quatre meilleurs pointeurs de la Ligue nationale sont justement le premier duo que tu as nommé, McDavid et Draisaitl. Et le deuxième, donc au rang 3 et 4, c'est McKinnon et Rantanen.
Ouais.
Mais le gros duo, là, on a donné 12,5 millions à McKinnon, entièrement mérité. Ça va être combien Makar va coûter en 2026?
Ben voilà.
14-15 millions?
Tu sais, les gars...
Rien en bas de 15, là. Ouais. Si Draisaitl vaut 14 millions par année, Makar en vaut 15, là.
Oui, puis combien vaut Rantanen? Combien veut Rantanen, tu comprends? Il a 28 ans. C'est probablement son dernier... C'est pas probablement, c'est son dernier gros contrat. Donc, en étant échangé avec les Hurricanes, il peut signer l'année supplémentaire parce qu'il appartient à l'équipe, contrairement à s'il devenait agent libre... Et il ne pouvait pas signer la fameuse longueur là, qu'on offre aux joueurs qui ont déjà... C'est un boni pour la fidélité. Mais tu sais, les gars, je me pose la question, et on le voit, c'est beau d'avoir les meilleurs joueurs, mais ce n'est pas nécessairement la recette pour gagner. Et puis avec l'Avalanche cette année, ce n'est pas concluant. Mais là, ils se sont dit... Tu sais, c'est ça.
Il reste que dans le cas de Rantanen... C'est quand même le profil dont les Hurricanes avaient besoin. Parce que dans les dernières années, les Hurricanes en série, ça a toujours été décevant. On arrive toujours proche, mais on perd au deuxième, au troisième tour. C'est une équipe peut-être qui manque un peu de grit, un peu de papier sablé. Puis bon, Mikko Rantanen, c'est pas Jaromir Jagr, c'est pas tout un attaquant de puissance non plus, mais c'est quand même un gars qui est physique, qui est capable d'utiliser son gabarit. Oui. C'est le profil de joueur dont ils avaient besoin pour essayer de passer au prochain niveau. C'est juste une question de... Est-ce que tu vas être capable de le garder, j'espère, au prix que tu as payé?
Mais t'as pas le choix de le garder, là.
Ouais.
T'as perdu Nechas, puis je pense que, tu sais, Nechas a signé un contrat pont là, de 2 ans, 13 millions. Et ça permet... Je pense qu'on pouvait douter que Nechas allait vouloir poursuivre sa carrière. Tu sais, il allait aller à l'autonomie complète, certainement. Quel sera le cas avec l'Avalanche du Colorado? Ça reste une grosse question. Mais là... T'es les Hurricanes de la Caroline, tu t'es placé dans une position, t'as pas le choix, là. T'as donné Netchas, puis t'as donné deux choix au repêchage, puis t'as donné Drury aussi. Bon, Drury est un joueur plus défensif, là, si on veut, spécialiste des mises en jeu, notamment tout ça, mais t'as pas le choix d'y donner, là.
Mais les gars, j'ai l'impression qu'ils vont finir par s'entendre avec Rantanen. OK? Ça, une fois ça dit, là, je vous pose une question. Dans le fameux trio avec l'Avalanche, l'année où ils ont gagné leur Coupe Stanley, en ordre, là, les trois, quel était le plus important et quel était le troisième? Moi, je vous donne mon opinion. Makar, MacKinnon, Rantanen. Et je l'ai dit d'emblée, là, en rentrant tantôt, Rantanen, c'est un joueur que j'adore. C'est un joueur que j'ai gardé dans mon keeper's pool. Et c'est un joueur à qui je disais tout le monde, il peut gagner un championnat des compteurs. Donc, c'est pas un joueur contre qui j'ai une dent, là. Mais malgré ça, il était le troisième de trois, selon moi. Je sais pas ce que vous en pensez.
Tu parles de l'importance à l'Avalanche?
Oui.
De Rantanen? Ben absolument. Oui. Puis il y en a un autre là, qui va revenir au jeu, là, fort probablement, là, qui s'entraîne avec ses coéquipiers depuis un bon deux semaines. Il s'appelle Gabriel Landeskog.
Ouais, ça c'est un. Lui, t'es d'accord que ça va être un point d'interrogation quand ils vont revenir.
On a tendance à l'oublier un peu, là, Landeskog.
Ça, c'est en 2022. Était,
Rantanen, machine de points, certainement. Mais je suis d'accord avec toi que et Makar et MacKinnon sont devant lui.
Bon, mon point.
Dans l'organisation et dans l'importance. Est-ce que c'est MacKinnon? J'oublie tout le temps si c'est MacKinnon ou Landeskog. Première question. Quelle est la clé pour aller vous gagner une Coupe Stanley? Répondu. Trouvez-vous un Cale Makar.
Mais maintenant. Il avait été extraordinaire cette année-là. Presque pas de revirement. Aussi bon en défensivement qu'offensivement. Mon point, ce que je vous amenais, Olivier puis Greg, c'est que, en arrivant avec le Hurricanes, un côté, j'ai aucun doute qu'ils vont finir par s'entendre, ils vont le signer. Ils vont lui donner ce qu'il veut. Mais il n'a pas de Makar et il n'a pas de MacKinnon. Parce que quand je regarde l'alignement des Hurricanes, qui est une équipe qui compte beaucoup de buts, je pense qu'ils sont le quatrième dans l'Est, derrière les Capitals et derrière Tampa Bay, et derrière, étrangement, Columbus, qui est la troisième équipe qui a compté le plus de buts, malgré ça, ils n'ont pas les mêmes joueurs, il n'y aura pas les mêmes joueurs, il ne sera pas entouré des mêmes joueurs. Une bonne équipe avec une bonne profondeur, mais ça ne sera pas les mêmes joueurs. Fait que mon point, je ne sais pas l'impact qu'il va avoir avec les Hurricanes, qu'il avait avec l'Avalanche, et je termine avec ça. Et ça, c'est purement spéculatif. Rappelez-vous ce fameux commentaire du papa de Lekkonen qui disait « L'été, Mikko, il ne s'entraîne pas fort. » Tu comprends? Alors, c'est pour ça que je vous ai dit, il est énigmatique. Moi, je pense qu'il pourrait être aussi bon que Draisaitl. Puis parfois, quand je le regarde jouer, je dis, voyons, il me semble qu'il est absent ce soir.
Mais il finit toujours par, tu sais, il finit toujours par être sa feuille de pointage pareil. Le talent lui sort, mais tu sais.
Il est talentueux. Et peut-être que là, il va être super motivé parce qu'il va devenir le joueur le plus important de la concession des Hurricanes dans cette équipe-là.
Ouais. Maintenant, Svechnikov, Aho, Rantanen, c'est le meilleur trio de la Ligue nationale, ça, maintenant?
À voir. Ça va être un très bon trio, t'as raison. Écoute, au niveau talent, mais des fois, ça prend plus que le talent. Mais au niveau talent, c'est un des très bons trios, clairement. C'est sûr. Mais là, tu comprends? Pour terminer avec Crosby, ça va être tout un défi d'aller le chercher parce que là, à un moment donné, est-ce que l'Avalanche veut encore se positionner pour aller chercher la Coupe cette année? J'espère que oui. Mais là, si tu vas chercher Crosby, je ne sais pas s'ils vont vouloir que des choix de première ronde. T'sais, à un moment donné, il y a une limite. Ça va être intéressant et ça reste très hypothétique là, parce que Sid the Kid, il va falloir qu'il veuille partir de Pittsburgh. Mais ça serait une transaction, puis Olivier, tu vas me comprendre, ça serait une transaction qu'on pourrait voir dans la NBA, ce type de transaction-là, quand là, le meilleur joueur est réuni avec peut-être le deuxième meilleur joueur de la Ligue.
Ouais, une question de hey, on est les chums de la Nouvelle-Écosse qui viennent jouer ensemble, ça ferait très NBA.
Un chum, c'est un chum.
Puis du côté de l'Avalanche, il y aurait peut-être Casey Middlestat, là, qu'on était allé chercher l'an passé, des Sabres de Buffalo. On est un peu déçus.
Ouais, c'est sûr.
Mais c'est un morceau parmi plusieurs que tu vas devoir donner si tu vas chercher un Crosby ou peut-être même si on appelle du côté des Canucks de Vancouver puis qu'on veut aller chercher un gars comme JT Miller ou peu importe, mais c'est sûr que le magasinage n'est pas fini pour l'Avalanche.
Il y a beaucoup d'insiders qui disent que c'est ça, le magasinage n'est vraiment pas terminé pour l'Avalanche.
Ça fait juste commencer.
Exact. Ouais. Donc, quel sera...
En mode Taylor Hall, Greg, tu vas m'en parler tantôt, OK, d'accord.
Ben, c'est pas Taylor Hall en tant que tel. C'est l'organisation des Blackhawks.
Ouais.
On va citer Tony. Là. C'est la première fois qu'on va passer. Hey, les Blackhawks, là.
Is this a joke?
On en reparlera.
Ouais. OK.
La carte de Paul Skeens.
Ouais.
Je veux qu'on se garde un autre sujet pour demain, Eric. Ton autre sujet sur la Ligue nationale. La carte de. Et j'ai hâte d'entendre ton opinion sur cette situation-là. Parce que c'est une belle histoire. En même temps, je pense que je vais t'amener une balle courbe pour pas faire un jeu de mots avec ce que Paul Skeens fait dans la vie, pour mettre en contexte nos auditeurs qui sont pas au courant. Tops et Fanatics, donc Tops appartient maintenant à Fanatics, ont décidé depuis l'an dernier de produire des cartes qu'on appelle le MLB Debut Patch. Donc, on a mis sur le chandail du joueur en tant que tel, de la recrue, une petite patch que c'est marqué MLB Debut à son premier match. Et on remet cette fameuse patch-là, cette écusson-là, dans une carte qui existe en une seule copie et qui est signée à la main par le joueur. Les Pirates de Pittsburgh, menés par Paul Skeens, ce jeune lanceur exceptionnel, premier choix repêchage, qui performe déjà dans les majeures, là, ont mis, parce que Paul Skeens est un grand collectionneur, ont mis un prix, on appelle ça un bounty, là, donc sur la carte, en offrant des billets de saison à vie, en offrant une rencontre avec le joueur, jersey signé, je pense. Il y a même Liv Dunn, qui est la fiancée de Paul Skeens, qui a dit « Tu peux regarder un match avec moi dans ma loge, il n'y a pas de problème. » Tout ça. Et là, finalement, la carte a été trouvée cette semaine, Eric.
Oui. Puis j'ai amené le sujet parce que je connais ta grande expertise et ta grande passion pour les cartes. Moi, j'ai déjà collectionné très jeune, puis j'ai arrêté de collectionner. Mais je peux comprendre qu'on peut avoir une passion. Et là, maintenant, c'est un marché très lucratif. Puis c'est vraiment fascinant. Puis pour moi, je pense pas que j'ai la même perspective que toi ou que des gars comme Georges qui ont une passion puis qui ont une connaissance importante des cartes de collectionneurs. Pour moi, c'est plus ludique, c'est drôle. C'est un kid de 11 ans qu'on nomme pas dans l'article. C'est un kid de 11 ans qui a cette carte-là.
Ouais. Okay?
Et là, les Pirates lui ont donné, pour être concret, là, et il habite à Los Angeles, le kid.
Ouais.
Il habite pas à Pittsburgh. Là, les Pirates lui ont dit, écoute, le kid, là, on va te donner des billets de saison, deux billets de saison derrière le marbre pour les 30 prochaines années. Mais le kid, il habite à Los Angeles. On va te donner la possibilité de rencontrer Paul Skeens, qui, comme tu l'as dit, pour les gens qui nous écoutent pas, c'est peut-être un gars qui va être le lanceur de sa génération s'il reste en santé. On va te donner deux chandails signés et tu vas passer une partie avec Liv Dunn dans sa suite et much more. Et encore plus, le kid de 11 ans, sûrement, j'espère, conseillé par ses parents, ils ont dit merci, non merci, je vais la mettre en vente avec un Alancan qui va aller chercher beaucoup d'argent. Il va aller chercher combien, je ne sais pas, tu es mieux placé que moi. Puis je trouve ça drôle que ce soit un kid de 11 ans, puis je trouve ça drôle que. C'est bien qu'ils disent non parce que, écoute, géographiquement, c'est impossible. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les billets de saison? Je pense que les Pirates auraient peut-être pu mettre de l'argent. Peut-être que c'est pas légal de mettre de l'argent, je ne sais pas. J'ai hâte de t'entendre, mais je trouve ça drôle et ludique. Puis tant mieux pour le kid. Puis c'est ça la beauté du sport. C'est un kid qui, lui, va pouvoir en parler toute sa vie de cette situation-là.
J'aime ça, Eric, que tu m'amènes ça. Parce que ça, c'est la version que tout le monde croit.
C'est la version Hollywood.
C'est la version Hollywood.
Parfait.
C'est la version Hollywood. Et là, je sais qu'on va dépasser, pardonne-moi Ali un peu, là. C'est la version Hollywood. Habituellement, quand une carte comme ça sort, là, okay. Admettons que tu es un magasin de cartes, c'est sûr que le kid sort pas de là sans prendre une photo. Faites juste regarder ce qui est arrivé quand au Saguenay, la carte de Lewis Hamilton, une de une, est sortie.
OK.
On savait qu'elle était sortie dans quel magasin. Le lendemain, il y avait des files d'attente parce que les gens voulaient s'acheter des boîtes puis des paquets. Ils se sont dit, voyons donc, tu peux avoir une carte à 1 million ici au Saguenay, que c'est ça? On a su qui l'avait sortie. Donc, et ça, c'est il y a plusieurs années. Maintenant, c'est encore pire. Si ce qu'on appelle un « breaker », tu sais, c'est des compagnies, là, des gens qui sont... Eux autres, qui font ça, des ouvertures de boîtes en direct. Là. Donc, ça, il y en a plein. Maintenant, Fanatics est dans cette business-là, avec Fanatics Live aux États-Unis. Si un des Breakers sort cette carte-là, peut dire que ça fait le tour d'Internet, là, de TikTok, de tout ce que tu voudras en quelques heures seulement. Et le Breaker, en tant que tel, c'est un coût de publicité énorme. Alors imagine pour un magasin dans un marché comme Los Angeles qui vend une boîte, puis c'est un kid de 11 ans qui sort la carte. C'est une histoire qui est formidable. On a eu à l'imaginaire ici, pas loin de Montréal, il y en a eu une de Connor Bedard qui est sortie également. Donc ça se sait très rapidement ces informations-là. Là où c'est comique, c'est qu'on n'a aucune photo du kid.
Ouais.
On ne sait pas c'est qui. Et la carte, elle est sortie, ça a été annoncé en début de semaine, je crois, quelque chose comme lundi. Et mardi ou mercredi, la compagnie PSA, qui s'occupe de grader des cartes, annonçait en grande pompe sur leurs médias sociaux, la carte de Paskins qui a été sortie a été gradée 10-10. Donc, c'est-à-dire la carte est dans un état parfait et la signature est aussi parfaite sur la carte. Attends une minute. Là. C'est sorti d'une boîte, ça, lundi. Puis mercredi, elle est gradée 10-10 déjà par PSA. Et là, on refuse l'offre. Puis elle est déjà à l'enchère, cette carte-là, qui est probablement la carte la plus courue après là, de l'année 2024-2025. Là. Dans tout le marché. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui trouvent ça vraiment louche que cette carte-là, on n'ait aucune preuve de où, comment, pourquoi elle est sortie, qu'elle soit allée directement chez PSA comme ça et que 24 heures après, gradée, puis qu'après ça, elle est déjà mise à l'enchère. Il y a beaucoup de gens qui appellent, puis là, je suis en train de lire sur le site de la MLB comme quoi ce serait à l'encan pour une fondation de charité ou quoi que ce soit, mais c'est louche un peu, la façon que ça a été géré, tout ça.
D'ailleurs, dans la publication X ou Twitter, des pirates, on termine en disant « Pensez-vous que le kid prend la bonne décision? » Alors, c'est comme pour nous titiller, tu comprends? Fait que tu m'amènes un point que moi, j'avais pas vu, naturellement, parce que j'ai pas cette expertise-là.
Non, mais c'est vrai. C'est une belle histoire quand tu dis, mais c'est une belle histoire. Moi, je veux savoir, tu sais, un peu comme on a vu le kid qui a sorti la Lewis Hamilton. On l'a vu dans la fameuse série sur Netflix avec, voyons, comment il s'appelle, le fameux encanteur, là, celui qui a tous les... son nom m'échappe, enfin bref. Qui est l'encanteur le plus connu. Donc là, c'est un peu... C'est un peu louche cette histoire-là, mais on suivra où est-ce que ça s'en va. C'est un beau sujet.
Et ce que ça nous dit, c'est que le potentiel de Paskins. Paskins, c'est l'année 2024, extraordinaire. Tu sais, ça va être Paskins au baseball, peut-être. Wembanyama au basket. On espérait qu'un Connor Bedard, ça va peut-être être Celebrini, ça va peut-être être Gavin McKenna. Tu sais, dans chaque sport, tu vas avoir. Ça va clairement être, et on pourra en parler plus tard dans le tailgate, dans les prochaines semaines. Et longue vue au tailgate weekend, Arch Manning, ça va être ces icônes-là qui vont être ce que Crosby et McDavid ont été pour leur sport, ce que LeBron a été. Et là, LeBron, il nous dit qu'il va peut-être continuer jusqu'à 45 ans, je ne sais pas, mais je l'ai vu encore jouer cette semaine contre les Celtics. Il est capable en masse de jouer jusqu'à 45 ans, ce gars-là.
Ouais, effectivement, c'est une machine. Eric, il faut absolument se laisser. C'est Golden que je cherchais, bien sûr. Ken Golden, voilà le nom
que je cherchais. Je pensais que tu disais que la chronique avait été Golden.
Aussi. Et toi aussi, tu es un homme en or. Salut mon chum, on se parle demain.
Bonne journée à tous les auditeurs. Bye, à demain.
Bon match ce soir également.